Alors, un bon matin à vous tous, un très bon dimanche. Toujours une joie, un privilège, une grâce que le Seigneur nous accorde d'être ensemble autour de sa personne, autour de sa parole, de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'il est avec nous dans les bons et dans les mauvais jours. Quel réconfort! Alors, ce matin, nous allons commencer une toute nouvelle série que nous avons intitulé « Jésus et moi ». Jésus et moi. En anglais, « Jesus and I ». Et vous savez, dans ce titre-là, « Jésus et moi », on vise simplement de vous faire remarquer que Jésus et moi partent d'une relation. Jésus et moi. Et ce matin, si vous êtes un croyant, vous êtes en relation avec Jésus. Lui est votre sauveur et nous sommes les sauvés. Alors, tout de suite là, dans Jésus et moi, nous avons cette relation. Nous pouvons aussi avoir cette relation où est-ce que Jésus est, oui, notre maître. On le voit à travers les évangiles. Vous m'appelez Seigneur et maître et c'est ce que je suis. Et nous sommes ses serviteurs. Nous pouvons aussi avoir considéré Jésus et moi dans le contexte d'une relation de mariage. Nous avons entendu parler ce matin des mariages qui s'en viennent, un événement heureux. Et ce matin, nous nous réjouissons du fait que Jésus est notre divin époux et nous, l'Église, nous sommes son épouse. Et un jour, il va revenir chercher justement son épouse. Mais dans ce contexte, Jésus et moi, que nous avons préparé pour vous, ce n'est pas dans ces trois contextes que nous voulons focaliser. Nous voulons focaliser dans une relation Jésus et moi, et moi en tant qu'ami et ami. Et vous savez, c'est tout à fait biblique cela, parce que dans la parole de Dieu, nous avons des individus comme Abraham, et dans Jacques, nous dit que Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de vraiment réfléchir et d'y penser que nous pouvons avoir cette relation d'amitié avec le grand Dieu du ciel. Extraordinaire. Et Abraham y a bénéficié de cela et la Bible même le souligne en étant ami de Dieu. Jésus aussi, qui avait passé 3 ans et demi avec ses disciples, vers la fin justement de son ministère, avant d'aller à la croix dans Jean chapitre 15, il va leur dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle, ou quoi, mes amis. Et ce matin, j'aimerais justement vous encourager et d'y réfléchir. Que si vous connaissez Christ, vous êtes croyant, vous êtes des amis de Jésus. Jésus et moi, il est notre ami, il est votre ami, il est mon ami. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste regarder dans le contexte d'une relation d'amitié, qu'est-ce qui est impliqué dedans? Pourquoi est-ce que les gens forment justement des amitiés? Mais tout d'abord, il y a des passions. Si je suis une passionnée de la chasse ou la pêche ou les sports, mais c'est sûr que je vais m'entourer avec mes chums de pêche, mes chums de chasse, on s'en va ensemble, puis on va faire justement, on va faire ce qui nous passionne. Il peut y avoir aussi des projets, et de ce temps, il y a beaucoup de projets aussi, il y a des fondations, des organismes. Et les gens qui sont dedans, ils ont des projets en commun. Ils veulent, puis aujourd'hui, c'est très de la mode maintenant, sauver la planète. Alors, on va justement former des projets pour débarrasser l'océan du plastique et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui, justement, font en sorte que les gens vont tisser des relations d'amitié. Et même pendant les guerres, quand vous pensez à la Deuxième Guerre mondiale, nous avions justement les alliés. Et qu'est-ce qui regroupait les alliés? Mais c'était des pays amis qui justement combattaient contre le régime d'Hitler et les nazis. Alors les projets Ce sont des choses qui peuvent aussi relier les gens dans l'amitié. Mais ce matin aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important. Plus que les passions et plus que les projets, c'est la personnalité de la personne avec laquelle vous allez vous lier en amitié. Le caractère. Et vous savez, quand vous êtes dans une relation d'amitié, plus que les passions, plus que les projets, c'est le caractère de l'individu qui va justement faire en sorte que cette amitié est agréable. Il va y avoir quelque chose que j'aime, j'apprécie, un trait de caractère dans l'individu qui pour moi est attrayant, qui m'attire vers cette personne. Et je trouve ça quelque chose qui répond. C'est vraiment mutuel, quelque chose qui répond en ce que je recherche, en ce que justement j'aime. Et pour cela, parce que justement il y a ce trait de caractère, mais je vais justement chercher sa présence. Souvent, les gens qui sont vraiment, qui tissent des liens d'amitié qui sont assez profonds, ils aiment être ensemble. Et on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et vous savez, ça c'est vrai. Nous avons des choses en commun, mais dans la présence des uns des autres, on se sent bien. Et pourquoi est-ce que c'est important de focaliser justement plus sur la personnalité, le caractère que sur les passions, les projets? C'est parce qu'on peut avoir justement des personnes qui partagent les mêmes passions, qui partagent les mêmes projets, mais quand on est ensemble, ça frotte, c'est rugueux, c'est rude, c'est pas smooth, comme on dit en bon québécois. Et au lieu de nous attirer vers eux, ça nous repousse, on va fuir leur présence. Mais quand les trois sont ensemble, les passions, les projets, surtout la personnalité, le caractère, mais là, on aime justement être ensemble avec ces personnes. Et vous savez, ce matin, Jésus nous invite justement dans une relation d'amitié avec lui. Et dans Matthieu 11, 28, Jésus va dire ceci, « Venez à moi. » C'est quoi ça? « Mais cherchez ma présence. Venez à moi. Je veux que vous soyez avec. Venez. » Dans cette relation d'amitié, je cherche votre présence. Venez à moi. Prenez mon joug sur vous. Mais le joug que je vous ai montré ici, deux animaux. Le joug, justement, c'est ce truc ici qui passe par-dessus leur tête. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet à ces deux animaux d'aller dans la même direction. Et aussi, ils sont en train de labourer la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le même projet. Ils sont dans la même direction. Alors, on a ici des éléments de base, justement, d'une amitié. Et la troisième chose, il dit, apprenez de moi. On parle justement de personnalité, de caractère. Et Jésus nous rassure que oui, vous pouvez justement entrer joyeusement dans cette relation d'amitié. Parce que, garde mon caractère, je suis doux et humble de cœur. Alors voilà ce matin une invitation de la part de Jésus, justement pour Jésus et moi, amis, justement, pour que nous puissions vouloir profiter, bénéficier, se délecter justement de cette relation d'amitié avec Jésus. Et pourquoi est-ce que c'est important, cette relation d'amitié aux yeux de Jésus, parce que Jésus sait la valeur d'un vrai ami face à la vie. Et un vrai ami, ça n'a pas de prix. La vie peut nous amener toutes sortes de difficultés. La vie peut nous lancer des balles courbes. Mais quand vous avez une amie qui est là, quelqu'un qui va cheminer avec vous, Quelqu'un qui ne va pas vous juger ni vous condamner, mais qui va partager ce que vous êtes en train de vivre dans les moments difficiles. Ça, ça n'a pas de prix. Deuxième chose, notre frère Benoît a parlé de cela ce matin, l'importance de notre transformation. Vous savez, Dieu a un but pour vous, et c'est plus que les projets et les passions. Le but pour vous et pour moi, c'est que nous retrouvions ce que Adam a perdu en Éden. Dieu nous a créés à son image. Et le but de Dieu pour nous, c'est que nous soyons transformés à l'image de qui? Jésus-Christ. Et vous savez que quand on passe du temps ensemble, qu'est-ce qui arrive? Qui s'assemble finissent par se ressembler. Alors Jésus nous invite de dire, écoute, venez passer du temps avec moi, parce que là, vous êtes en train justement d'investir dans ce projet que Dieu a pour vous, de me ressembler. Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, et nous allons voir la gloire du Seigneur à travers ce message, nous sommes transformés en la même image. C'est extraordinaire, Jésus et moi. Et aussi, la troisième chose, si je veux vraiment bénéficier de cette relation Jésus et moi, mais une relation d'amitié aux yeux de Jésus, il sait qu'il y a l'impossibilité d'une amitié florissante en santé s'il y a conflit. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Jésus et moi, il nous invite à venir, passer du temps avec lui, prendre son jus, avoir la même direction, les mêmes intérêts, les mêmes passions. Mais il sait aussi ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble d'accord là-dessus, sinon on ne peut pas aller ensemble. Alors voilà pourquoi est-ce que c'est important aux yeux de Jésus, cette relation d'amitié. Alors ce matin, nous avons, comme je vous dis, préparé une série de messages, Jésus et moi. Et comme vous pouvez voir, soyons. On veut aussi que ce soit plus que juste l'information. Le « soyons » vise une application pratique. Et nous avons sorti, nous avons préparé sept messages pendant le mois de juin et juillet, où est-ce que nous allons regarder cette relation. Jésus et moi, soyons saints, soyons compatissants, soyons serviables, soyons humbles, soyons enseignables, etc., etc. Et notre prière de ceux qui enseignent, c'est qu'à la fin de cette série, vous allez justement bénéficier, vous serez en train de jouir d'une meilleure relation avec Jésus, mais aussi vous allez être en train de grandir dans une meilleure ressemblance à sa personne, parce que nous allons considérer Jésus. Et maintenant, nous allons considérer aussi nous-mêmes et comment est-ce que les deux ensemble, en cheminant dans cette relation d'amitié, comment est-ce que nous pouvons être transformés de plus en plus à son image. Alors, Jésus et moi, ce matin, on débute avec le premier message, soyons saints. Et pourquoi soyons saints? Parce que c'est là l'attribut de Jésus qui est le plus important. Ça, c'est l'attribut de Dieu qui est le plus glorieux de tous ses attributs. Et dans lequel ses autres attributs sont vraiment révélés. Sa justice est une justice sainte. Son amour est un amour saint. Sa colère même est une colère sainte. Alors, c'est très important de commencer au commencement, la sainteté, dans cette relation d'amitié avec Jésus. Parce que si nous échouons là, nous allons échouer sur toute la ligne. Alors, ce matin, je vous invite, si vous avez vos Bibles, de prendre... vos Bibles, si vous avez un iPad, un iPhone, whatever, on s'en va dans 1 Pierre chapitre 1 et nous allons lire des textes 14 à 16, justement pour nous mettre dans le contexte de ce sujet. Et je vous mettrai dans le contexte de 1 Pierre, chapitre 1, 14, 16. Pierre est en train d'écrire aux chrétiens qui sont dispersés, qui subissent la persécution. Et pour les encourager, il leur parle justement de leur héritage spirituel qui ne peuvent ni se corrompre, ni se flétrir. Il est réservé pour vous dans les cieux. C'est beau qui s'en vient. Mais dit maintenant, mais en attendant sur la terre, j'aimerais justement vous exhorter en ce qui concerne quelque chose. Et regardez au verset 13 pour le contexte, après ça on va aller voir le reste du texte. C'est pourquoi, hein, Pierre 1, 13, « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ça c'est beau, Jésus s'en vient. Mais, en attendant, mais, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Une exhortation aux chrétiens de justement être saint et d'autant plus qu'on est dans une relation d'intimité avec Jésus, comme nous avons vu, marcher ensemble, il faut être d'accord. Et l'exhortation est basée dans ce contexte ici, vous serez saint parce que moi je suis saint. Et si on va progresser, si on va bénéficier, si on va vraiment s'épanouir dans cette relation, il ne peut pas y avoir conflit. Il ne peut pas y avoir conflit. Vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, en parlant de la sainteté, je sais que des fois, on a une très mauvaise idée. Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui pensent que être saint, c'est lire la Bible toute la journée, prier toute la journée, la vie est plate, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. C'est un peu comme les pharisiens, hein? Les hommes qui se promenaient, ils avaient des longues robes, ils faisaient des longues prières, ils avaient le visage long. Puis leur, ok, puis eux, ils étaient des saints. Ne vous approchez pas de moi, vous allez me contaminer, je suis plus saint que vous. Ça, ce n'est pas la sainteté, pas du tout. Il y a d'autres aussi, comme je dis, qui pensent que, oui, la sainteté, c'est une privation. Privation du plaisir, privation de... On ne peut pas avoir du fun. J'aimerais vous dire ce matin que, comme on dit en anglais, « Nothing could be further from the truth ». Ce n'est pas la vérité du tout, du tout, du tout. Et pour nous aider à bien comprendre qu'est-ce que c'est, on va parler justement de la définition. La sainteté se dit de Dieu en tant qu'il est souverainement pur, qu'il est parfait. Ça, c'est simplement que ça veut dire pur. Séparé du péché, consacré à Dieu, sacré, et ça, c'est une définition qui vient du dictionnaire biblique de W.E. Vine. Alors, sainteté rime avec pureté, c'est tout. Séparé du péché. Et ça, c'est un attribut qui caractérise Dieu. Et je vais vous donner justement rapidement en ce qui concerne Dieu le Père. Marie, justement, dans le cantique de Marie, va dire ceci. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Alors, quand on parle de Dieu, il faut se rappeler que Dieu est un Dieu qui est pur. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu est pur, il est saint. Jésus, quand il s'adresse à son Père, dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, comme on dit, il va dire à son Père, « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Alors, Dieu, en tant que Père, est saint. En ce qui concerne l'Esprit aussi est saint, il est pur. Matthieu, l'évangéliste, va nous dire ceci, en parlant justement de l'annonce que l'ange avait faite à Marie. « Marie, sa mère, se trouvant enceinte par la vertu du quoi? Saint-Esprit. » Alors, l'Esprit de Dieu aussi est saint. Et Paul, quand il va parler de Jésus lors de sa résurrection, il va dire ceci, « Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. » Alors, le Père est saint, le Fils est saint. Mais, en ce qui concerne le Fils, Jésus, je parle justement Jésus en tant qu'homme, parce que Jésus est l'homme-Dieu. Il est Dieu aussi, mais il est aussi homme. L'ange va dire le Saint-Enfant, parle de Jésus, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Un démon, même pendant son ministère, qui a confronté Jésus, qui était en face de Jésus, il va dire ceci, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Excuse, Nazareth, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus, homme, qui est là, devant lui, il voit cet homme, il va dire, tu es le Saint de Dieu. Et Pilate, lors de, justement, avant la crucifixion de Jésus, il fallait, quand il a vu Jésus, quand il a entendu, il fallait qu'il déclare, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Et puis, lors justement du jour de la Pentecôte, quand il va justement prêcher un sermon, il va dire aux Juifs, vous avez renié qui? Le Saint et le Juste. Alors, le Père est Saint, le Fils est Saint, et aussi l'Esprit est Saint. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous montrer cela? Parce que, vous savez, en ce qui concerne le Fils, Jésus, et on revient justement à Jésus et moi, ça c'est très important bien de saisir cela. Parce qu'il est saint, 2 Corinthiens 5 nous dit, il n'a pas connu le péché. Parce qu'il est saint, il n'a pas commis de péché, 1 Pierre 2, 22. Parce qu'il est saint, il n'y a point en lui de péché. Et parce qu'il est saint, Jésus est impeccable. Incapable de pécher et non pas pécable, capable de ne pas pécher, comme quelques-uns ont prétendu. Et ça, c'était une polémique. Il y a des gens qui ont justement proposé que Jésus était capable de pécher, mais il a résisté. Ça, c'est une hérésie. Je vous déclare ce matin que Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, homme Dieu, impeccable, incapable de pécher parce qu'il est Dieu, il est aussi saint. Quelle est l'implication de cela? Jésus, saint. J'aimerais vous faire que vous remarquiez trois choses avec cela. Vu que nous sommes en Jésus-Christ, si vous êtes ici ce matin, vous avez, mis votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, vous aussi, vous êtes positionnellement en Jésus-Christ, vous êtes aussi saint. Parole de Dieu, Paul, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés quoi? Appelés saints. Dieu, dans sa grâce, nous confère justement cet trait de caractère positionnellement saint en Jésus-Christ. Paul, il va dire à Éphèse, Paul aux saints qui sont à Éphèse. Et quand vous regardez ces lettres aux Philippiens, Paul, il se plaît justement quand il s'adresse à ses confrères, ses consœurs, de les appeler les saints en Jésus-Christ. Quelqu'un dit ceci, Neil Anderson, Dieu ne nous appelle jamais des pécheurs, il nous appelle des saints. Si nous nous considérons comme des pécheurs, devinez ce que nous ferons. Nous vivrons comme des pécheurs. Pourquoi ne pas nous considérer comme ce que nous sommes vraiment, des saints qui pêchent occasionnellement? Alors, voilà pourquoi Jésus et moi, dans cette relation d'intimité, d'amitié, déjà en partant, nous avons une base. Il est saint et Dieu, à travers Jésus-Christ, nous voit aussi saints. Alors, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour que cette relation d'amitié soit ce que devrait être. Et quelles sont les implications? Jésus, en étant saint, a été de saint serviteur. Et on a parlé ce matin de glorifier Dieu. Ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes ici sur la terre, créés à l'image de Dieu, rachetés par le sang de Christ, pour une seule chose, pour glorifier Dieu. Ça, c'est le but principal de la vie. Et Jésus, quand il a terminé son ministère, il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ça, c'était ce qui était devant Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps de sa vie sur la terre, c'est glorifier le Père. Et en tant que saint serviteur pur, il a été, à travers son ministère, il a rendu gloire à Dieu. Et Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 27, parle justement que Jésus en tant que saint serviteur. Ça veut dire que les œuvres qu'il faisait, son ministère avait une motivation qui était pure. Ce n'était pas pour justement attirer l'attention sur lui-même. Ce n'était pas non plus pour avoir la louange ou l'adoration, mais pas l'adoration, mais justement que les gens, justement, les mettent sur un piédestal. Rien de cela. C'était une seule chose, c'était pour justement la gloire de Dieu. Deuxièmement, en étant saint, il a glorifié Dieu en étant le saint sacrifice. Parce qu'il était saint, il a pu être justement le sacrifice, le paiement que Dieu exigeait en ce qui concerne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais est-ce qu'un pécheur peut mourir et satisfaire les exigences d'un Dieu trois fois saint? C'est impossible. Ça prenait justement quelqu'un qui était saint, qui est pur. Et Jésus, en un temps pur, quand il a livré sa vie, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Il était justement le saint sacrifice. Et troisièmement, l'implication de la sainteté. Jésus, en étant saint, a glorifié Dieu dans son ministère, dans sa mort, mais aussi dans sa médiation. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs. Et ça, c'est le ministère que Jésus fait actuellement, en ce moment même, à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Et quand nous tombons, quand nous péchons, nous avons un souverain sacrificateur, comme dans l'Ancien Testament, qui rentre dans la présence de Dieu, un Dieu trois fois saint, avec son propre sang, et qui plaide, qui intercède, et qui nous épargne justement de la colère de Dieu qui devrait tomber sur nous. Nous sommes couverts, nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, saint souverain sacrificateur. Mais vous savez, je parle de Jésus et moi parce que nous pouvons imiter Jésus dans ce même contexte. D'être aussi un saint sacrifice. Paul va dire aux Romains, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est possible, tout à fait possible. Comme Jésus a été le saint sacrifice qui a glorifié Dieu, nous pouvons aussi, nous pouvons nous offrir à Dieu. Me voici, Seigneur. Paul, dans 11 chapitres, parle justement de ce que Dieu a fait pour nous. Parle de la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, oui, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous ont péché, mais ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement par justement le sang de Jésus-Christ. Et ça, en réponse à cela, Paul exhorte les chrétiens maintenant d'offrir le corps comme sacrifice vivant, pur, agréable à Dieu. Et qu'est-ce que cela implique? Dans ce contexte, Jésus et moi, on voit que notre sacrifice est agréable et ça nous permet justement de marcher comme Enoch qui a marché avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit d'Enoch? Il était agréable à Dieu. Et pourquoi il était agréable à Dieu? Mais j'aimerais vous dire qu'Enoch marchait dans la sainteté, dans la pureté. Il était un homme agréable à Dieu, il marchait avec Dieu. Et on revient encore, Jésus et moi. Et quand moi, je m'offre au Seigneur, à Jésus, à Dieu, mon corps comme un sacrifice vivant, saint, pur, on rentre plus justement dans cette relation d'amitié où est-ce qu'on marche ensemble dans la pureté. Et nous sommes agréables à Dieu. La deuxième chose, les croyants peuvent être glorifiés Dieu en étant non seulement le saint sacrifice, mais aussi le saint serviteur. Si donc quelqu'un se conserve pur, Paul va dire à Timothée, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Ça nous parle justement d'un ministère. On peut vouloir faire beaucoup de choses pour Dieu, mais Dieu, il y a un critère, une chose qui est importante. Nous voulons servir Dieu, mais servir Dieu quoi? Avec les mains pures. Un vase d'honneur sanctifié. Et comme Jésus, pendant tout son ministère, allait de lieu en lieu, faisant le bien et faisant des choses extraordinaires, un homme, une femme de Dieu qui est consacrée, qui est pure, peut être un instrument incroyable entre la main de Dieu pour faire des choses extraordinaires, utile à son maître. Et la troisième chose, c'est croyants peuvent glorifier Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ, en étant des saints sacrificateurs. Et là, nous avons deux volets. Nous avons l'adoration. Et vous-même, Pierre va dire aux chrétiens, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Notre adoration doit aussi être faite dans la sainteté, dans la pureté. Et dans cette condition-là, où est-ce que nous approchons d'un Dieu qui est pur, mais là, ça nous permet justement d'entrer dans ce que nous devrions faire à cause de ce que Dieu est, élever son nom dans la sainteté, dans la pureté. Ça nous qualifie pour justement être de vrais adorateurs. Et la deuxième chose aussi qui est très importante, donc, en tant que sacrificateurs que nous sommes, ça nous permet aussi d'être des intercesseurs. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Et ça aussi, ce n'est pas exclusif aux hommes, c'est aussi pour les femmes. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'un homme, une femme de Dieu qui est dans une condition de pureté peut avoir un ministère puissant dans l'intercession. Puissant dans l'intercession. Dieu va dire ceci à Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras sainteté à l'éternel, tu l'attacheras sur le devant de la tienne, elle sera sur le front d'Aaron. Et ici, il y a une parallèle. Dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur. Lui, il entrait dans la présence de Dieu, il représentait plutôt le peuple devant Dieu, et il représentait aussi Dieu devant le peuple. Et vous et moi, nous avons aussi la même chose. Nous sommes une nation sainte, un saint sacerdoce. Mais remarquez qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne Aaron. Il portait justement sur la tiare, il y avait une lame ici, c'était gravé sur ici le bonnet qu'il portait, sainteté à l'éternel. Et ce n'est pas écrit sur votre front ce matin, mais je peux vous dire, spirituellement, c'est écrit ici, à vous et à moi, sainteté à l'éternel. Maintenant, voilà, Jésus, saint, pur, nous avons cette possibilité, à cause de notre position, d'être aussi comme Jésus, dans notre ministère, justement, en mourant soi-même, et aussi dans notre médiation. Dans le pratico-pratique. Parce qu'on parle de sanctification, pureté positionnelle. Mais aussi, il faut parler de sanctification progressive. Et si nous sommes honnêtes ce matin, nous savons que souvent, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Alors, comment maintenant, dans cette relation, Jésus et moi, toujours, amitié, où est-ce que nous allons marcher ensemble, viser les mêmes buts, apprendre de Jésus, ressembler plus à Jésus, parce que ça c'est le but, soyons comme lui. Comment est-ce qu'on va maintenant de façon pratique cheminer dedans? Première chose, la communion. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu met à notre disposition une manière de se purifier. Qu'est-ce que c'est? C'est de marcher dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de marcher selon la parole de Dieu. Et quand nous sommes dans la parole de Dieu, quand nous sommes devant, en la présence de Dieu lui-même, quand nous sommes en train de laisser le Seigneur nous parler, là nous allons avoir justement cette communion intime avec le Seigneur. Et la parole a cette capacité de nous purifier et de nous garder justement dans cette condition que nous devrions être pour bénéficier pleinement de cette amitié que Jésus veut que nous ayons avec lui. Je suis pur, vous soyez purs, en avance ensemble. Jésus et moi, la communion. Alors, marchez selon la parole de Dieu. Alors, prenez le temps. Il est important de prendre le temps à tous les jours. C'est notre nourriture spirituelle, mais plus que cela aussi, ça nous garde en contact avec notre Dieu. Deuxième chose, la contrition. Le texte dans Ésaïe nous dit ceci, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu dit, « Je suis saint. » OK, mais regarde bien. « Je suis avec l'homme contrit et humilié. » Et la contrition, c'est cette attitude de cœur que je ne suis pas ce que je devrais être. Je n'ai pas l'appétit que je devrais avoir pour la présence de Dieu. Je ne suis pas celui qui soupire, comme le psalmiste dit, « Comme une biche soupire après de courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Combien de fois on n'est pas ce que nous devrions être, mais est-ce que ça nous affecte jusqu'au point qu'on est brisé devant Dieu, dans sa présence, et nous sommes en train de se lamenter de ce que nous ne sommes pas, ce que nous devrions être, et ça nous affecte de voir justement notre condition de pauvreté spirituelle. Et Dieu dit que si je vois ça dans votre cœur, même si je suis saint, je suis avec vous parce que je vois justement ce désir, ce soupir justement pour être comme je suis. Et moi, quand je vois cela, mais je m'approche et je vais ranimer vos cœurs, les cœurs qui sont brisés et qui sont contrits. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui devraient nous justement amener dans cette contrition. Le péché qui fait des ravages dans notre propre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la société. Nous avons besoin justement d'être touchés par cela et d'être brisés et contrits devant le Seigneur. Et voyez comment le Seigneur dit, « Moi, le Saint, je vais m'approcher de vous dans cela. » Mais la troisième chose, la confession. Ça, c'est une contrition, c'est une attitude justement de cœur, mais la confession, c'est quand on tombe justement dans le péché. Et là, maintenant, il faut faire la réparation. Et un son qui nous parle de cela, c'est David. Vous connaissez le contexte avec Bathsheba. Et David va prier comme ceci, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. J'ai péché contre toi seul. » Ce n'est pas la faute de ma voisine, mon voisin. Non, c'est moi. Et regarde ce qu'il recherche dans cela. « Purifie-moi de mon péché. » Il recherche la sainteté. Il sait que c'est important. « Purifie-moi et je serai pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et David, quand il a péché, il est allé devant Dieu. Il n'a pas essayé de cacher. Il n'a pas mis la blâme sur personne. Il dit « Je suis coupable. » Mais, je sais que je peux trouver grâce et pardon auprès de toi et je te demande de purifier mon cœur. Et Dieu exaucera toujours une telle prière. Deux choses en terminant. Jésus et moi. Je suis pur, Jésus dit. Si vous allez marcher avec moi dans ce chemin d'amitié, apprendre de moi, mais vous aussi, il faut que vous travailliez à votre sainteté. De façon pratique, je vous donne un exercice. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, dans quelles conditions vous êtes ce matin, mais je vais vous demander cette semaine, parce que vous n'êtes pas seul dans ce combat, c'est un conflit. Nous sommes dans un conflit contre la chair, contre le monde, contre le diable. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul dedans. Vous avez quelqu'un qui est extrêmement puissant, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit quoi, nous aide dans quoi nos faiblesses. Alors si vous voulez progresser dans la sainteté, d'être pur devant Dieu, et d'être capable justement d'avoir ce ministère que Dieu veut vous donner, comme il a donné à Jésus-Christ, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider, c'est le Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, c'est d'être seul avec Dieu et demander une chose, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que j'ai attristé le Saint-Esprit dans ma vie? Parce que pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est attristé, tout ce que je vous ai montré ce matin va être extrêmement difficile, voire impossible à accomplir. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est l'exhortation. N'éteignez pas le Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit, ça c'est possible. Et ça c'est l'application que je vous laisse ce matin. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si tel est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et la voie de l'éternité, quand vous êtes là-dessus, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Jésus. Jésus et moi qui marchons sur la voie de l'éternité, la voie de sainteté, la voie de pureté. Et là, vous êtes en train de mieux le connaître. Vous êtes en train justement de vous réjouir de sa présence, vraiment de se délecter de sa personnalité, de comment est-ce qu'il est. Et en plus, de participer avec lui dans des projets, dans sa passion et de rendre gloire au Seigneur. Et la deuxième chose, si vous êtes ici ce matin et vous dites, ça c'est impossible, ma vie, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous ne savez pas comment je suis, j'aimerais vous dire que Jésus a été et sera toujours dans les évangiles, qu'est-ce que les hommes ont dit? Il était l'ami des publicains et de qui? Des gens de mauvaise vie. Et les publicains, c'était la pire espèce de la société parce qu'ils travaillaient pour les Romains. Et Jésus, dans sa pureté, s'est approché de ces gens justement pour les inciter à avoir cette relation. Et si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Christ, c'est la relation qu'il aimerait aussi établir avec vous. Il y a l'espoir parce que Jésus aussi, c'est un ami des pécheurs. La semaine prochaine, si nous sommes ici, si on n'est pas au ciel, on va continuer. Jésus et moi, soyons compatissants. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Que pouvons-nous te dire de plus, Seigneur? Tu connais nos cœurs. On demande que ta bonne main soit sur ton peuple, ta bonne main soit sur moi. Seigneur, ta bonne main soit sur cette génération. Que nous puissions justement être sensibilisés à l'importance, Seigneur, de marcher pur devant toi. Alors, purifie nos cœurs, sonde nos cœurs, pardonne nos péchés. Merci d'être de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci d'être un Père qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui sait de quoi nous sommes formés, qui se souvient que nous sommes poussière. Alors, conduis-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité, et que ton Église puisse alors te glorifier. On demande ces grâces au nom de Jésus. Amen.